France Musique.
Il muette, il inoubliable sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Carnet de voyage qui ce soir prend le large, mais alors le vrai large. Un territoire grand comme 23 fois la France et une population qu'on dit autochtone qui ne constitue que 5% de la population totale, soit 1,5 million de personnes réparties selon une petite quarantaine de populations locales ou nationalités en russe. Ce soir nous partons en Sibérie, à l'écoute des esprits mais surtout dans un premier temps à l'écoute de ce que les chamans sibériens arrive à mettre en œuvre pour parvenir à une forme d'efficacité rituelle investie de fonctions très diverses. Malgré une histoire soviétique dramatique qui a décimé ses populations et ses chamans, il reste encore aujourd'hui en Sibérie des chamans et des formes chamaniques multiples. Il existe aussi un ethnomusicologue qui a fait de cet univers son terrain. Ses enregistrements sont magnifiques. Henri Lecomte nous ouvre son carnet de voyage en Sibérie chamanique. Bienvenue à lui, bienvenue à vous et maintenant... Partons. Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, je vous remercie.
Alors la Sibérie, c'est grand, c'est très grand.
On peut le dire, oui.
On va parler de population.
Oui.
Plutôt que d'ethnie, parce que c'est un terme un petit peu malheureux. Population qui compose une cartographie absolument hallucinante. Et je voulais vous remercier parce que l'émission Ce Carnet Voyage était absolument géniale à préparer. Avec ces enregistrements que vous avez faits en Sibérie chamanique. Oui, population décimée, je disais. Quelle est cette réalité aujourd'hui du chamanisme en Sibérie ?
Il reste très peu de chamans traditionnels, disons. Mais par contre, je pense que l'esprit chamanique est omniprésent. Et que ce soit, par exemple, dans une grande ville, où je me suis retrouvé à Yakoutsk, je faisais professeur d'université qui faisait des offrandes au feu, alors qu'il était sur le feu de la cuisinière à gaz, mais ça ne change rien. Ça peut être aussi, il y a des groupes d'Europe chamanique comme Yatra.
Les trains au rock.
Oui, oui. comme Yatra ou chez les Tuva. Il y a des reconstitutions de rituels chamaniques, mais on en parlera peut-être plus tard. Chez les Evinques, par exemple, on parle de gens qui sont morts parce que dans ces reconstitutions, les rituels avaient été mal exécutés, oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que c'est des formes différentes que pour les autochtones, ce chamanisme n'a pas une puissance très forte qui peut même entraîner la mort. Mmh. Et en plus, il ne faut pas oublier que les cultures évoluent. Et qu'une culture qui évolue pas, c'est une culture morte, c'est du folklore, et c'est pas le cas en Sibérie.
Alors, la première étape qu'on va faire grâce à vous, et toujours avec vos enregistrements, c'est chez les Nganasan, qui habitent dans le grand nord sibérien. Et vous dites que ce serait un des peuples les plus arctiques de Sibérie, des descendants d'anciennes civilisations arctiques.
C'est le plus arctique.
Mais ça, donc, on connaît l'histoire de ces populations.
C'est un peuple samoyède, c'est-à-dire que les plus connus en Europe, c'est ce qu'on appelle parfois les Lapons, eux préfèrent s'appeler les Samis. Mais c'est le même groupe de population. Et ils sont là depuis très 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 longtemps, quoi. On pense qu'ils étaient là quand il y avait encore des mammouths en Sibérie.
Mmh. Ok. Alors, on plonge dans une séance chamanique, justement, qui s'appelle, donc localement, c'est Kamlanié.
C'est Kamlanié, c'est le mot russe. Et en fait, c'est un mot qui vient de l'altaïen. Kam, ça veut dire remuer le bas du corps. Parce que les chamans, souvent, dansent quoi, pendant les rituels. Mais ce qui n'est pas le cas chez Nganasan.
En pleine séance de rituels chamaniques Kamlanié chez les Nganasan en Sibérie, avec vous, Henri Lecomte, un grand merci encore une fois. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consiste, dans le temps, une séance de Kamlanié ?
Alors, c'est extrêmement variable. Il y a autant de séances différentes que de populations, et on peut dire même que de chamans. Mais je peux vous parler de celle qu'avait effectuée Delsumiako Kosterkin, c'était en l'hiver 1992. Donc il a fait cette séance pour sa communauté et il a commencé en allant voir Mishka. Il me parlait en russe parce que je ne parle pas le Nganasan. Mishka, c'est l'équivalent de nounours parce qu'on ne prononce jamais le nom de l'ours.
Oui, on ne va peut-être pas le faire non plus nous.
Non. Bon, en France, on peut peut-être, mais bon. Et il a été le voir pour s'assurer que tout se passerait bien pour sa communauté. Et après, la seconde partie du rituel était pour écarter le suicide des jeunes.
Qui est important chez l'Enganasan, c'est ce que vous
malheureusement, dites. Dans beaucoup de populations sibériennes, il y a beaucoup de problèmes, on ne peut pas le nier, d'alcoolisme et de suicide chez les jeunes. Mmh. Et la fille de Soumyaku s'était elle-même donnée volontairement la mort quelques mois avant.
Et donc c'est vrai que vous, je crois que vous dites justement dans la description de cette situation d'enregistrement qu'à un moment aussi, le chaman en particulier se saisit d'un couteau pour se l'enfoncer dans le ventre symboliquement, bien sûr,
et que pour ce écarter le suicide exactement. Des jeunes.
Oui, exactement. Oui.
Et alors justement, ce qui est important aussi, c'est que il prétendait plus ou moins qu'il n'était pas chaman d'El Soumyaku. Ben, il faut dire que c'était en 92, donc c'était 2 ans après la perestroïka. Donc les chamans avaient subi des persécutions énormes, enfin, qui étaient souvent des mises à mort. Et je sais que j'étais avec une ethnologue russe qui m'avait dit « mais c'est un acteur ».
Mais beaucoup de scientifiques russes pensent d'ailleurs que les chamans ne sont qu'acteurs, même s'ils disent « attention, on n'a pas touché le tambour du chaman » parce qu'il est quand même investi d'une force satanique. Quoi, dire.
C'est ce que m'avait dit cette ethnologue russe qui était une orthodoxe militante. D'un côté, ce n'était pas un chaman et son tambour ne pouvait pas y toucher parce qu'il était empli de force satanique. Bon. Et moi, je pense que c'était un chaman, mais qui, d'une part, se protégeait. Il n'avait pas envie de finir vers l'équivalent du goulag, qui n'existait plus. Mais enfin. Et d'autre part, un chaman, c'est un acteur. Enfin, il y a eu des écrits très intéressants, justement, pour parler de ce rôle d'acteur, et qui se retrouve dans la plupart des religions. Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans la religion catholique. La grand-messe, les prêtres étaient déguisés, il y avait les gardes suisses qui étaient déguisés, les enfants de chœur étaient déguisés. En plus, ça se passait dans une langue en latin que les 9/10 des fidèles ne comprenaient pas. Et il y avait un côté théâtral, mais ça n'empêche pas que les gens y adhéraient comme ils le font en Sibérie. Et d'ailleurs, chez un autre peuple sibérien, les Évinques, le même mot, Ike, signifie à la fois jouer, y compris jouer le rôle d'un acteur, et chamaniser.
Carnet de voyage avec vous en Sibérie, Henri Lecomte. Là, nous sommes juste en dessous du cercle polaire, un petit peu plus au sud que les Nganasan. République Sakha, c'est la Yakoutie.
Sahra.
Non, excusez-moi.
Je suis désolé. De...
Ah bah non, mais. On ne peut pas parler 15 langues. Et donc, Henri Lecomte, ça rappelle quand même que le chamanisme, même par rapport à ce qu'on entendait avant, est quelque chose qui a à voir avec une action collective, même s'il y a un chaman.
Mais déjà, dans le rituel qu'on a entendu en première partie, l'assistance participe. Il y a une sorte d'hétérophonie. Et de temps en temps, l'oncle du chaman prenait son tambour ou sa femme tapait sur le cadre du tambour pour appeler les esprits. Et même si le chaman a un rapport particulier avec les esprits, dans une société chamanique, tout le monde peut communiquer avec les esprits. Mais évidemment, le chaman est un intercesseur qu'on ne peut pas éviter.
Mais au quotidien, tout le monde communique avec les esprits.
Tout le monde communique avec les esprits. Mmh. Et par exemple, dans ce qu'on entend actuellement, la danse de l'Oswokhaï qui se déroule pour l'Ichyar, qui est la fête du solstice d'été, il peut y avoir 100 ou 150 personnes qui dansent en rond dans les alas, les grandes clairières de la taïga de Yakouti. Là, c'est un chanteur, ça peut être une chanteuse, qui chante la gloire de la nature, des esprits, etc. Et toute l'assistance reprend ce qu'il improvise.
Sangahuru yaktaram, sibiye
Henri Lecomte, carnet de voyage toujours avec vous en Sibérie. Et cette nouvelle population, les Évins que vous avez évoqués en début de carnet de voyage, et vous dites peuple en Sibérie qui est un des plus éparpillés.
Oui.
Entre le sud de la taïga russe,
il y a même des
Chine-Mongolie, enfin par.
Oui, des Évins en Mongolie et en Chine aussi, oui.
Mais ils se reconnaissent entre eux?
Ils ont du mal à se comprendre parce qu'ils parlent des dialectes différents, mais enfin c'est tout de même la même langue. Et puis, ils ont aussi une particularité, c'est que c'est eux qui ont créé le terme chaman, c'est un mot évin.
Ah. Alors, vous dites aussi des très grands nomades. Pour donner un ordre d'idée, c'est en hiver à peu près des changements de camp tous les 20 jours,
oui.
Et en été tous les 3-4 jours.
Oui, oui. Ben pour que les troupeaux de rennes, c'est des éleveurs de rennes, aient de quoi se nourrir.
Et donc, je rebondis sur ce que vous disiez, l'importance du verbe jouer.
Oui.
Jouer et sa polysémie. Chez les évinques, jouer, chamaniser,
c'est le même mot,
c'est le même mot.
Ike. Et Octiabrina, par exemple, c'était l'assistante du dernier chaman évinque, Vassili Vassiliev, qui nous a quittés, hélas, il y a un an. Et il y avait aussi un jeu entre eux. Et par exemple, à la fin du rituel, elle lui prenait ses habits, qu'elle mettait, et elle se mettait à jouer du tambour pour lui permettre de tiédir, selon le vocabulaire, pour lui permettre de revenir dans le monde du milieu.
Et alors, justement, on va parler un peu de tous ces aspects du chamanisme, mais c'est vrai que chez les évinques, vous dites qu'il y a beaucoup de références à la rivière-mer, et puis cette habitude aussi de dévaloriser ses propres chants, de les dire mauvais pour ne pas s'attirer trop les attentions des esprits, en fait.
Ah ben oui, oui, oui.
Et pourquoi, alors, pourquoi ça?
Et parce que, justement, c'est une autre forme de jeu. Par exemple, j'étais une fois dans un campement évinque où ils avaient invité le vieux de la forêt. Vous voyez peut-être de qui je veux parler.
Oui, celui qu'on ne veut pas nommer depuis le début, là, qui est
oui.
Un animal,
oui.
Qui aime le miel.
Voilà. Justement, on ne dit pas Miedviet, qui veut dire l'homme du miel en russe. Et donc, on était dans la tente le soir où ils le dépeçaient, celui qu'ils avaient invité. Et ils faisaient comme si c'était la première fois qu'ils voyaient cet animal. Et ils disaient, mais t'as vu là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la rate? Ah non, je pense pas, c'est le foie plutôt, non. Ils disaient, et dans le cou, on dirait qu'il y a une balle. Et en plus, c'est un rite. Bon, je vais dire le mot, puisqu'on est en France. Quand on invite l'ours, ça permet à la fois de relier notre monde avec celui de la surnature, parce que l'ours, c'est un peu l'ancêtre de l'homme, et en plus aussi de relier les liens entre les clans, parce qu'on ne tue pas l'ours soi-même. C'est-à-dire qu'un chasseur découvre l'ours l'hiver, parce qu'on n'a pas le droit de le tuer ailleurs qu'en hiver, et il appelle... Il va chercher dans un autre campement un autre chasseur qu'on appelle le gendre, qui lui réveille l'ours et le tue. Et donc ça permet à la fois de relier les liens entre la communauté et avec la surnature. Mais en même temps, toujours on joue. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas la vérité, on fait semblant de truquer. Et ce qui ne veut pas dire que ça soit une chose qu'on fasse à la légère. Hein. Alors, Evdokia Egorovna Lekhanova, c'était la petite fille de la dernière grande chamane évinque, Madame Kulbertinova. Et malheureusement, elle est morte 2 ans après cet enregistrement où elle célèbre la mémoire de sa grand-mère. Et ça a été interprété comme un refus des esprits.
De devenir chamane.
Voilà. Et elle s'accompagne du Mamkaro, qui est le sac à sel, qui est avec des petits sabots de renne autour, et qu'on secoue pour appeler les rennes.
Aigo soya ga din Utaka te yominan ngaan Tika ngane itat kadabi Butunungun guncali ipkil Ayat ngane itat kaca ngaan Wakun ngusama kun ngaan At kan ngane acino ha Mokoye vanun gunceling na Jantoling num naknilbe ngan Gunipki ilngu dusaya aygu Anangane sopte vrakat Niduk ngane tajamu ngan Agajono yabagu uchin Nanel jeng us guning ke ite tejamangun bayang une talga cinda yong ato ocha eva mi bodang naru at kandalu amuru ungun Butungungun pasyoku udu Bijari ilngun sarungu ani Wababungu butungungan Bilirgi iku natruku ukun Nyama jurjace otalawi Bicangane gunding nungun Putunu ubu ujon cucungkin Pasol kalabu ulangki namara Aranji iku twitulu titkat Angkin nganak turu abamibun Aranje non taigado ngaan Nurging kengu utukarabi Ilgi janu tajumu adut Ngatkan ngane bukun ngune Agdil chal ngun behilbo ngu Butun ngun simenay ikur Uta cheko ol buku nune Nyungun be na laman mo ura Buno ke che lo chal behil bo Taring karabu ni cho cho na Bayal ngane e ilu majil do Aga karabu na pamit ko Yon yada atin padari inal ko.
Carnet de voyage en Sibérie, Henri Lecomte avec vous, à l'ouest de la Russie, ici donc à l'est des monts Oural, et toujours ce rituel du jeu de l'ours, dont l'histoire est aussi dramatique, puisque c'est un rituel, un jeu qui a été interdit par les soviétiques.
Ah oui, oui, bien sûr, il était interdit, mais maintenant il revient, on peut dire, en force. Il n'a jamais complètement disparu, parce qu'on vient d'entendre, là, c'est un... des enregistrements d'archives qui ont été faits dans les années 1980. Mais après, on va entendre une jeune fille qui joue de 13-14 ans, qui qui joue une danse de l'ours sur la lyre de Sankultap. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre que les cultures sibériennes ne sont pas des isolats, même si elles sont originales, parce qu'elles-mêmes émancipent et elles jouent une composition de Grishkin, qui était un grand compositeur Khante, qui est un peuple samoyède aussi, mais différent.
Instrument caractéristique des Mansi, cette magnifique lyre, très très beau son, Henri Lecomte. Alors, on parlait avec vous de ce rituel de l'ours, quand même, pour les auditeurs du Carnet de Voyage. Vous dites, par exemple, que ce rituel dure 3 jours pour une ours, 4 jours pour un ours. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que quand on ouvre l'ours, il y a aussi des métaphores pour nommer les différentes parties du corps de l'animal.
Oui.
L'œil égale l'étoile. Le cœur, par exemple, est défini comme étant la pomme de pin. Que la tête de l'ours est déposée sur une estrade. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Enfin, je veux dire, quel est le sens de l'action rituelle à ce moment-là?
Le sens, c'est de, comme dans beaucoup de peuples sibériens, mais avec des rituels sibériens, différents, pardon, l'ours, selon une belle expression qui avait été employée par les études mongoles et sibériennes, c'est l'autre de l'homme. Et en fait, c'est l'homme de la forêt, celui dont on prononce pas le mot, mais qui est l'ancêtre. C'est pas le cas chez les Khante et les Mansi, mais par exemple, il y a beaucoup de peuples Tungus, ou le premier Oudégué, par exemple.
Alors, Oudégué?
Les Oudégué, c'est un peuple Tungus qui vit dans le bassin de l'Amour, à l'extrême-est. Le premier Oudégué, c'est le fruit de l'union d'un ours et d'une femme, d'une humaine. Et je précise que c'est pas un viol, hein. La femme, elle est séduite par l'ours. Et donc, elle donne naissance au premier Oudégué. Et dans tous ces peuples, la manière d'inviter l'ours, c'est de le tuer. Et de manière différente, parce que chez les Évinques, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le trouve par hasard, en chassant la zibline ou choses comme ça, dans son terrier l'hiver. Mais chez les Koryaks ou chez les peuples Tungus du bassin de l'Amour, par exemple, on élève l'ours. Et puis, à un moment, on l'invite, c'est-à-dire qu'on le tue. Mais c'est pareil, les femmes ont encore un rôle différent. Je n'ai pas assisté à ce rituel chez les Nanaï, mais j'ai vu une vidéo que m'avaient offert les gens d'un village à Lidoga, où on voit les femmes qui, quand l'ours est mis à mort, pleurent et jettent des copeaux de bouleau sur sa dépouille. Elles ont toujours une relation privilégiée. Et par exemple, sur la pièce qu'on va entendre maintenant chez les Nifres qui vivent à Sakhalin, qui est une île au nord du Japon, le rituel de l'ours, ça, c'est un rituel reconstitué. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de valeur pour
Il y a des efficacités rituelles,
oui. Il se pratique avec une poutre percutée et c'est uniquement les femmes qui ont le droit d'en jouer. Thank you.
Un enregistrement encore une fois fascinant, cette poutre de bois de Mélèze, instrument exclusivement joué par les femmes pendant la fête de l'ours, sur l'île de Sakhalin, Henri Lecomte.
Alors l'île de Sakhalin, donc, elle se trouve au nord du Japon. Là, c'est chez un peuple qui s'appelle les Nifres. Ils ont aussi deux instruments originaux. Ils ont le kalni, qui est un altérateur de voix qui est fait avec une très grande tige nobellifère.
Qui est très très grande. Qui fait, j'ai vu une photo de 2-3 mètres de long.
Oui, enfin, 2-3 mètres de long, oui. Et ils jouent aussi d'une vielle monocorde avec une technique qui, à ma connaissance, tout au moins, est unique au monde. C'est qu'en fin de phrase, la musicienne fait des trémolos avec la pointe de sa langue sur la corde à vide.
Carnet de voyage en Sibérie, toujours avec vous, Henri Lecomte. Alors c'est vrai qu'avant d'aborder peut-être le disque qui m'a le plus fasciné de cette série de 11 disques chez Buda, chez les Koryaks donc, je me demandais, mais lors de vos voyages, quel était le moyen de transport? Hélicoptère, voiture? Parce que les distances parcourues sont absolument énormes.
Un peu de tout, traîneau, hélicoptère, voiture, bateau, voiture à chenilles, train. Je n'ai jamais pris le temps sibérien, hélas.
Alors, la voix de Blaise Sandrard, ça aurait été tout à fait de circonstance.
Oui, en plus, j'aime beaucoup Blaise Sandrard, mais...
Est-ce qu'il est difficile de trouver les campements de populations nomades, par exemple?
N'importe comment, il ne faut pas le faire seul. Je ne voyage jamais seul, j'ai toujours quelqu'un qui me guide. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit jamais perdu.
C'est arrivé souvent?
C'est arrivé plusieurs fois.
Bon, on voyage pour ça, pour un peu
oui,
se perdre.
Oui. Non, en plus, je ne suis pas un aventurier. Et puis bon, ce n'est pas un exploit. Les gens, ils vivent toute leur vie dans cette nature et ils ne se considèrent pas comme certaines personnes qu'on voit parfois à la télévision qui n'arrêtent pas de se vanter, mais ce n'est pas mon truc. Quoi.
Alors, justement, ce disque des Koryaks... De l'extrême orient sibérien, justement, dans la péninsule de Kamtchatka. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire ce qu'est cette péninsule de Kamtchatka?
Le Kamtchatka, c'est donc une péninsule qui est juste en bas de la Tchoukotka. Enfin, souvent on connaît bien les Tchouks. Et les Koryaks, c'est un peuple qui est très proche culturellement des Tchouktches. Ce qui ne les a pas empêchés de bien se faire la guerre pendant des années.
Et puis aussi de se faire décimer par Staline.
Par les Russes, ça a été épouvantable. C'est l'endroit où il y a eu la pire répression à l'égard des chamans.
Parce que moi, je me rappelle de cours d'ethnomusicologie, justement, à l'université, où on nous parlait de ces navires affrétés par Staline qui n'arrivaient jamais, remplis de chamans. Est-ce que ça, c'est une histoire vraie ?
Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais je me souviens, une fois, j'avais vu une dame coriaque qui m'avait traduit, je parle pas le coriaque, qui m'avait traduit en russe des chansons, et elle dirigeait un hôpital, et elle m'avait dit les indigènes sont en état de choc. C'était en 96, quoi. Mais malgré ça, ils ont tout de même gardé beaucoup de leur culture. Je pense qu'il y a toujours des chamans. Moi, je n'en ai pas rencontré parce que, bien sûr, ils ont peur. Mais d'après ce qu'on m'a dit tout de même, en fin de soirée, choses comme ça, je pense qu'il y en a encore.
Et donc, il y a une forme vocale qui est très proche de quelque chose qu'on a déjà écouté ici dans Carnet de voyage. C'est le katadjak des Inuits. Donc, en quelques mots, Henri Lecomte.
Oui. Alors, je l'ai entendu par deux dames, deux sœurs Kaliegova, dans le nord du Kamtchatka. Et effectivement, elles m'ont chanté quatre chansons très très proches du katadjak des Inuits, de la terre de Baffin, entre autres. Mais je n'ai jamais entendu dans un autre village. Et je suis retourné 10 ans après au Kamtchatka. Enfin, j'ai pas pu aller à Karaga, mais j'avais acheté un disque édité sur place de musique traditionnelle du Kamtchatka, et les seuls chants du même type étaient par les deux mêmes dames. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont les seules à avoir conservé cette forme-là, mais enfin, apparemment, c'est pas très répandu.
Henri Lecomte, parmi les plages de ce disque chez les Koryaks que vous avez enregistré, disque absolument fascinant, vraiment. On a entendu cet avatar de katadjak, sibérien pour le coup, et puis ce qu'on entend sous nos voix, c'est le grand cycle du grand corbeau, qui est une sorte de conte mi-parlé, mi-chanté, et qui pose quand même une question qui est: quel est le rapport qu'entretiennent les Sibériens avec les entités, et surtout, se permettent-ils de jouer ou d'en jouer?
On joue avec Kouchkinyaku, le grand corbeau, parce que lui-même, il joue. C'est ce qu'en anglais, enfin en français, on dit à des...
Alors, Kouchkinyaku ?
Kouchkinyaku, c'est le grand corbeau.
Et donc, on en joue, alors ?
On joue avec lui. Les Amérindiens, d'ailleurs, de la côte ouest du Canada également. Et lui-même, c'est ce qu'en anglais, on appelle un trickster, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps des farces, il ment, et en même temps, c'est une sorte de Prométhée. Il a apporté le feu aux hommes, il est presque un créateur. Mais en même temps, par exemple, elle raconte que là, il s'est cassé une aile en essayant de voler du poisson dans, parce qu'on met le poisson à sécher pour l'hiver, et qui raconte à sa grand-mère qu'il s'est cassé l'aile en essayant d'extraire de la sève pour elle, et elle le croit, quoi. Mais il y a toujours ce côté de farce qui n'empêche pas le sacré.
Alors justement, là, on va se diriger vers une autre population, les Selcoupes. Alors, on est où, là, Henri Lecomte ?
Alors, les Selcoupes, ils vivent à l'ouest de la Sibérie, au nord-ouest, entre les Nénets et Nganassan. Enfin, ça ne dirait peut-être pas grand-chose à tout le monde. Mais enfin, au nord-ouest de la Sibérie, disons, et c'est un peuple samoyède, c'est-à-dire de la même famille linguistique que les Lapons.
Alors, ce qu'on va entendre, c'est justement un exercice d'enseignement, une leçon de musique entre une professeure et puis des petites filles de 9-10 ans qui apprennent à chanter. C'est une leçon de musique, Henri Lecomte ?
Oui. Enfin, c'est pas qu'une leçon de musique, c'est aussi une leçon sur la nature et pour apprendre à défendre ses droits. Parce qu'elle leur parle de leur grand-père à la parka, au pot de lièvre, qui faisait la guerre depuis longtemps. Et elle dit maintenant la terre est déchirée par les tracteurs, c'est une critique du colonialisme russe, on peut dire ça comme ça. Et elle dit depuis le cœur de la terre s'exprime un esprit, vous les Selcoupes, pourquoi dormez-vous ? Peuple lièvre, cours, peuple ours, lève-toi, peuple aigle, vole. Enfin, c'est une leçon pour retrouver son identité et en même temps écologique.
Ce sont les Selcoupes qui passent le relais au Bourouyat, dont nous allons parler avec vous. Mais juste avant cela, vous parliez de la nature, en fait, d'une sorte d'enseignement écologique et de cette logique également d'échange avec les esprits parce qu'on tue un animal, et c'est ce que vous dites dans votre livre, pour établir un échange avec les esprits. Et une autre chose qui m'a beaucoup interrogé, c'est que ce rapport d'échange profond avec la nature, eh bien, peut prendre des manifestations qui m'ont beaucoup interpellé, comme par exemple l'exemple de ces personnes âgées qui se laissent tomber des traîneaux pour se laisser mourir à petit feu et se laisser dévorer par le gibier qu'ils ont chassé toute leur vie.
Oui, oui, bah parce qu'elles pensent qu'elles sont une charge pour leur communauté.
C'est incroyable.
Et en même temps, on a mangé des animaux toute sa vie, c'est normal que les animaux vous mangent à leur tour. Je me souviens une fois, justement, j'étais dans un village Selkup où j'étais avec le maire et on était dans le cimetière. C'était l'hiver. Là. Enfin, et c'était tombe sur pilotis parce qu'à cause du pergélisol, on ne peut pas creuser des tombeaux. Et les tombes, elles étaient démolies par les ours et les gloutons. Et je disais au maire, ça ne vous gêne pas. Il me disait, mais nous, on mange les animaux toute notre vie, c'est normal qu'ils nous mangent aussi. C'est une relation d'échange. Et l'homme, il n'est pas supérieur, il est un maillon de la nature.
Alors, les rapports aussi entre le chamanisme autochtone, on va dire, en Sibérie, et puis le bouddhisme, ça, on le retrouve donc chez les Bouriates. Où sommes-nous, Henri Lecomte?
Alors, chez les Bouriates, c'est un peuple mongol, qui n'est pas très loin de la Mongolie, enfin, qui se trouve dans le...
Du côté du lac Baïkal ou...
Oui, de part et d'autre du Baïkal. Le bouddhisme, en fait, il existe uniquement à l'est du Baïkal. Les Bouriates de l'ouest ne sont pas bouddhistes, ils sont uniquement chamanistes. Et les Bouriates de l'ouest sont bouddhistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient plus du tout chamanistes. C'est... Mais à l'ouest, quand on est dans un village, quand on est dans une maison, il y a tout de suite un hôtel bouddhiste avec une photo du Dalai Lama. Ils ont été convertis par les Tibétains. C'est le bouddhisme tantrique. Quoi. Et ce bouddhisme... Il y a des temples, il y a des grands temples, il y a des édifices funéraires, etc. Mais ils se pratiquent aussi à l'intérieur des maisons. Et j'avais eu la chance de pouvoir enregistrer un rituel bouddhique qui était pour l'inauguration de l'année lunaire, qui était effectué par des vieilles dames qui chantait Om Ene Padme Hum, le mantra le plus connu du bouddhisme.
Sada nyeo da ma sada kala sada 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 Хоята орны шазам барэгшэгэсэн хамаг зона эмэрхэн гэрлээр аварагша амэтэн зона заяан хүмэдэн хорлан нэсэ шолатай эрэг бүрүүсэн хүмэдэн бүрдэмэй. Маани бүрүүсэг эдэ ранды мангэ гундага ато санда тэрмо маза масабэдэ даурэн дула сарга замрэ шагла шакса лоло маани ватмэхо маани ватмэхо маани ватмэхо маани ватмэхо
Rituel domestique bouddhique tantrique chanté par des femmes âgées pendant le mois blanc au cours duquel on célèbre le nouvel an lunaire dont vous parliez, Henri Lecomte. Rituel propitiatoire et puis rituel qui pose quand même pas mal de questions. Chamanisme, c'est ce qu'on voit depuis le carnet de voyage. Il y a des chamanismes, il y a des rituels, il y a des jeux et des enjeux qui sont différents dans tout le territoire sibérien. Et il y a cette formule que vous releviez de Mircea Eliade qui définit le chamanisme comme technique archaïque de l'extase. Alors, en fait, ce n'est pas que ça.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire.
Parce qu'en plus, il y a cette notion d'extase ou de transe.
Très romantique.
Moi, je ne l'ai jamais entendu utiliser par les chamans, disons, traditionnels. Enfin, Mircea Eliade, il n'a jamais mis les pieds en Sibérie. Et je pense qu'il a établi des théories, enfin, qui, au moins, en ce qui concerne le chamanisme sibérien, n'étaient pas très fondées.
Donc thérapeutique, dimension thérapeutique, oui. Divinatoire.
Oui.
Et puis qui s'ouvre
agir
aussi
sur les éléments.
Oui,
aussi.
C'est ça.
Oui.
Et qui couvre aussi de chance ceux qui vont chasser.
Oui, oui. Et qui peuvent aussi s'appliquer à des gens extérieurs à la communauté. Puisque, par exemple, j'avais eu la chance de tomber sur une dame chamane très généreuse chez les Nanaï. C'est un peuple Tungus qui vit en Extrême-Orient sibérien, sur les bords de l'Amour, et qui avait effectué un rituel pour me donner une bonne chance au cours de ma mission.
Yeah.
Lecomte, carnet de voyage en Sibérie pour cette toute dernière étape dans la République de l'Altaï avec ce disque Le Chant des Montagnes d'Or sur les musiques justement de cette République de l'Altaï. Où sommes-nous exactement donc, Henri Lecomte ?
Alors l'Altaï, on est au nord de la Mongolie, de l'Altaï mongol. Mais c'est un peuple de langue turque, enfin il y a aussi des peuples de langue turque en Mongolie. C'est une culture qui est proche de la culture mongole. Et où on pratique, comme on peut l'entendre dans ce groupe de jeunes musiciens, le chant diphonique. C'est-à-dire, c'est un chant où on chante à la fois un bourdon et des harmoniques.
Et qu'en est-il de la place du chamanisme chez les Altaïens ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il reste encore des chamans, mais le chamanisme, il est très présent. Par exemple, quand vous vous déplacez en taxi collectif, comme je l'ai fait la plupart du temps, dès qu'on passe un col, on s'arrête parce qu'il y a des arbres avec des rubans pour les esprits. Et soit on se recueille simplement, ou on fait des offrandes de pièces, ou on accroche des rubans, choses comme ça. Et le chamanisme est resté très très vivant dans l'esprit des gens. Mais ils sont aussi un peu bouddhistes.
Pour simplifier.
L'un n'empêche pas l'autre.
Bah, bien sûr. Et alors, justement, chez les Altaïens, il y a, je crois, à peu près trois flûtes, dont oui. Une flûte absolument fascinante, flûte
harmonique. Il y a la flûte harmonique. Alors, parce que les harmoniques, chez les Altaïens, c'est très important, parce qu'on l'emploie dans le chant diphonique, on l'emploie dans la guimbarde. La guimbarde, c'est pareil, il y a une note qui est donnée par la lamelle, et puis en modifiant la cavité buccale, on sort des harmoniques différentes. Et il y a cette flûte qui n'est pas très très répandue, mais que m'a joué pour moi une dame dans un village du centre de la République de l'Altaï. Alors, c'est une flûte qui n'a pas de trou de jeu. Et la musicienne, dans ce cas, bouche ou débouche l'extrémité distale avec un doigt pour changer la fondamentale. Et en changeant la position de tête, sort différentes harmoniques.
Yeah.
deux exemples fascinants de cette musique, donc la flûte harmonique et puis cette guimbarde dans la République de l'Altaï avec vous, Henri Lecomte, et puis cette fin de carnet de voyage qui ne peut pas passer sous silence la guimbarde, justice a été rendue. Et puis, l'importance de l'élément feu. On a parlé de la nature et des processus d'échange.
Oui, assez curieusement, en Sibérie, le feu a certaines
importances. C'est étonnant. Je crois que vous parliez dans votre livre, justement, de villages que vous avez visités où les températures pouvaient atteindre moins 80 degrés. Donc, on se demande...
Moi, j'ai pas connu... le plus froid que j'ai eu, c'est moins 56. Mais il peut faire plus
moins froid. Moins 56
Oui, qui n'est pas chaud. Mais le feu, bien entendu, il a une importance extrême et on le vénère, on lui fait des offrandes. Quand on arrive dans une tente, il n'est pas question d'enjamber le feu, c'est un sacrilège. On fait des offrandes au feu, de vodka ou de graisse. Ça, je l'ai vu très très souvent et dans des contextes très divers, que ce soit pour le feu d'une cuisinière à gaz en plein Yakoutsk, qui est une ville de plus d'un million d'habitants, ou dans des campements, ou dans des fêtes villageoises, des choses comme ça. Et là, je vous propose d'écouter Elbek Alexeyevich Kalkin, qui est un grand chanteur d'épopée, dont le père était lui-même un très grand chanteur d'épopée. Mais là, il est dans sa petite cabane en
rondin de bois ou cabane d'été, quoi.
Oui. Et donc, il a allumé le feu et avec son luth, son topchour, il s'accompagne pour chanter les louanges du feu.
Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Carnet de voyage, chamanisme en Sibérie, Les Esprits écoutent avec Henri Lecomte, préparation Céline Tran, réalisation Claire Lagarde, prise de son et mixage Jean-Michel Coty. I Vous voulez tout savoir sur les différents rites de passage chez les Samburu du Kenya? Rendez-vous samedi prochain avec Giordano Marmone.
Take it, didn't you?